Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Should I stay or should I go? Chantaient les Clash en 1981. Should I stay or should I go now? La question portait sur le moment. Le moment, c'était celui de cet hymne punk de l'indécision amoureuse qui posait la question, en fait, du moment et du dilemme, partir ou rester. If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. En 1981, Margaret Thatcher est chef du gouvernement depuis 2 ans. Elle est farouchement hostile à l'intégration européenne. Elle fait pression sur l'Union pour diminuer la part du Royaume-Uni dans le budget communautaire. Elle veut retrouver son argent, to have our own money back, déjà back. Et elle obtenait finalement gain de cause avec le fameux rabais britannique. Et aujourd'hui, on le sait bien, l'indécision britannique prend la forme d'une spirale de négativité qui est enclenchée par le Brexit. Il ne cesse de vouloir partir, disant non à tout, y compris à leur propre volonté de dire non. Dans une fuite en avant, où l'on fuit même son désir de fuir. C'est de cela dont je voudrais parler, à partir effectivement d'un article qui m'a inspiré, qui s'appelle « Leave and Leave Again », un article de William Davis paru le mois dernier dans la London Review of Books. Partir, partir encore, et quitter même sa volonté de partir. C'est un sociologue et politiste qui est un spécialiste du consumérisme et de l'industrie du bonheur, et dont le dernier livre, « Nervous States », étudie la vulnérabilité des démocraties contemporaines, vulnérabilité aux attaques contre la raison. Et dans cet article, William Davis part des réflexions de politologie sur l'énoncé des formes interrogatives employées dans les référendums. Le plus souvent, dans les référendums, si on vous pose une question du type « Êtes-vous d'accord avec le fait que l'Écosse devrait être un pays indépendant ?» Eh bien, vous comprenez normalement qu'il est plus avantageux de répondre oui. Mais dès lors que se grippe cette auto-persuasion, censée réveiller l'acteur rationnel qui sommeille dans tout électeur, alors peuvent s'agréger les raisons de dire non qui sont plus diverses, plus hétérogènes, plus instables. Et cela crée alors une situation qui est imprévisible et incontrôlable. La force de l'analyse de William Davis est qu'elle ne repose pas sur le Brexit, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'histoire britannique et dans ce que Paul Gilroy appelle justement la mélancolie post-coloniale de l'Empire, qu'est-ce qui peut justifier le désir de rupture européenne ? Mais l'analyse porte sur le exit, sur le fait même de partir, qui va m'intéresser aujourd'hui. Faut-il quitter la Terre dès lors qu'elle devient inhabitable ? Dans son dernier livre « Où atterrir ?», Bruno Latour affronte ce fantasme contemporain, disons cette fiction politique. Il ne s'agit pas seulement de quitter son pays, mais de constater qu'on est quitté par son pays, qu'on est privé de terre, et que c'est l'idée même de sol qui se dérobe, ou en tout cas qui change de nature. Comment définir la nature du sol ? Où habitons-nous ? Qu'est-ce qu'habiter ? La terre est-elle encore habitable ? C'est bien de cela dont il est question dans le Brexit, sérieusement, et c'est ce qui le rend proprement inextricable. Pour le comprendre, William Davis s'appuie sur les travaux classiques d'Albert Hirschman, qui est précisément un théoricien de l'économie politique de la consommation, et qui rappelait, dans son grand livre « Exit, Voice and Loyalty », qui est paru en 1970, qui a été traduit en 1995 en français sous le titre « Défection et prise de parole », qui développe donc l'idée suivante, c'est un classique des sciences sociales, que en cas de désaccord, soit on se soumet, soit on donne de la voix, soit on s'en va. Ce livre, en fait, partait sur d'une enquête sur les consommateurs américains face à des produits qu'ils n'aiment pas. Ils vont acheter leur cornflakes préféré, puis ils se rendent compte que, en fait, le fabricant a changé la recette. Alors, ils ont plusieurs possibilités. Soit, effectivement, ils protestent collectivement. Bon, ça, on est aux États-Unis. En Europe, c'est moins courant. Soit ils se soumettent, soit ils s'en vont. Ils changent de marque. Et la dernière solution est évidemment celle qui a le plus de capacité de nuisance. Hirschman définissait la défection comme la forme la plus puissante de contestation dès lors qu'elle s'organise politiquement. Dès lors qu'elle n'est pas une fuite individuelle, mais effectivement un déguerpissement collectif. Et je prends à dessein un mot médiéval, déguerpissement, qui va nous intéresser tout à l'heure. Le développement incontrôlé du capitalisme financier a dévalué l'idée même qu'il puisse y avoir de la rationalité dans la loyauté politique. Au fond, les premiers Brexiters sont les flux financiers eux-mêmes. Dès lors, le désir de fuite est alimenté par la conviction que l'espace démocratique ne permet plus de donner de la voix. Et c'est l'idée centrale de William Davis qui m'a, au fond, servi de carburant, d'amorce au sens propre. Si la tentation de la défection peut être considérée comme la conséquence d'un découragement démocratique, et plus globalement de l'épuisement de l'invention du politique, l'inverse est vrai. Dès lors qu'on peut fuir, la nécessité de donner de la voix à l'endroit où l'on est, c'est-à-dire de donner un sens politique au fait d'habiter, ce que j'ai proposé d'appeler l'espacement, le fait de trouver une place là où on est, alors tout cela qui définit effectivement l'invention du politique, tout cela devient moins impérieux. Rapporté au Moyen-Âge, ça formerait l'hypothèse suivante, que je soumets, sans prétendre en mesurer toute la portée. La robustesse relative de la domination que l'on constate, que l'on peut nuancer dans les détails, mais que l'on constate au Moyen-Âge. Cette robustesse de la domination, elle résiderait moins dans la compacité contraignante de l'encadrement des hommes, ce sur quoi l'historiographie n'a cessé d'insister, mais au contraire dans leur capacité de s'en extraire. L'expérience communautaire se dissolvant alors dans la possibilité même de fuir, ce qui serait alors là une fuite au sens de Carlo Ginzburg, c'est-à-dire ce qui permet de faire jouer le système, de le rendre supportable, de le rendre habitable. C'est au temps de Harald à la belle chevelure que fut surtout colonisée l'Islande parce que les gens ne toléraient pas son oppression et sa tyrannie, surtout ceux qui étaient de grandes familles et d'esprit fiers, et qui possédaient de grands moyens, ils préféraient fuir leurs propriétés que de supporter oppression et injustice, que ce fût de la part du roi ou d'autres personnes, lit-on, dans la saga des hommes de Holmr, dont on a parlé la semaine dernière. Nous avons en effet, lors de la séance précédente, fait justice de cette reconstruction narrative des raisons sociopolitiques de l'épopée viking. Nous avons tenté de l'analyser en termes de dispersion diasporique, de dislocation politique. Il n'empêche que ce motif narratif puissant demeure, et demeure comme un facteur explicatif. Ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas l'oppression du roi et parce qu'ils en avaient les moyens. menant conjointement l'analyse de l'invention politique des formes de la délibération et de la puissance narrative des sagas en Islande, y reconnaissant une manière de projeter ses origines dans le récit d'une dispute plutôt que dans le roman d'une fondation, nous cherchions, vous vous en souvenez peut-être, à faire prendre le large à une histoire des pouvoirs qui était désormais envisagée comme histoire corsaire, c'est-à-dire à lui faire prendre le parti de l'archipel contre celui du territoire, de l'hétérotopie contre l'utopie, des histoires de marins qui se tissent et se tressent comme les cordages sur un pont de navire contre les mythes qu'elle dénoue. Bref, pour reprendre les derniers mots empruntés à Michel Foucault, le parti de l'inquiétude du discours contre le refuge de la fable. Ça, c'était la semaine dernière. Les échappées belles, l'aventure politique au loin, ça, c'était le titre de la semaine dernière. Alors, on pourrait poursuivre sur la lancée. Et pourquoi pas, d'ailleurs, à partir de l'implantation viking en Normandie. Après tout, ce motif de la dynamique guerrière par projection ou bannissement se trouve évidemment relancé au XIe siècle par les conquêtes normandes de l'Italie, l'Italie du Sud, l'Italie méridionale et de l'Angleterre. Là encore, les historiens ont longtemps exagéré, je dirais, l'apport juridique du monde viking dans la construction institutionnelle normande, depuis notamment les travaux fondateurs de Lucien Musset, par exemple relativement au droit d'exil, c'est-à-dire à ce bannissement assorti de la confiscation des biens qui porte dans la Normandie ducale du XIe et XIIe siècle un nom scandinave, Ulac, mais qui procède en fait essentiellement du substrat franc de l'exilium, c'est-à-dire du droit de mise hors la loi. Reste que les mots demeurent dans la toponymie, comme dans la patronymie, comme dans le droit. Reste que le passé scandinave persiste. Dans son travail monumental sur Guillaume le Conquérant, tout récemment traduit en français chez Flammarion, et qui est le couronnement de 40 ans de travail, David Bates invite à considérer cette conscience du passé scandinave pour comprendre le récit préalable de la conquête. Une minorité agitée de Guillaume, une culture de la violence agressive, de la vendetta, et surtout, comme l'écrit David Bates, je le cite, « la capacité de la société normande du XIe siècle à produire des individus ou des groupes qui se détachent de l'ensemble. » Toujours cette puissance diasporique de dislocation, de quitter son lieu pour le transporter ailleurs. La biographie de David Bates décrit la violence du bouleversement politique que constitue la conquête de l'Angleterre, l'empreinte du souvenir de la destruction d'un monde. Et il le fait sans euphémiser la brutalité du gouvernement de Guillaume. Or, cette brutalité, c'est pas exactement mon sujet, mais voilà là où ça m'intéresse, entre autres. Elle se poursuit par d'autres moyens dans la mise par écrit du grand inventaire de la conquête, le fameux Domesday Book de 1086. Aucun bœuf, aucune vache, aucun cochon ne fut oublié, écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne, qui identifie cette exhaustivité que nous on trouve merveilleuse, une sorte de chef-d'œuvre d'ingénierie administrative, un inventaire complet, des droits, du sol, des vies, je vais le dire. Mais lui, l'auteur de la chronique anglo-saxonne, il identifie cette exhaustivité comme une violence scandaleuse, comme une capture intolérable. C'est pas l'envoi de tous les commissaires dans tous les comtés d'Angleterre et le retour des registres auprès du roi, et tous les registres lui furent ensuite rapportés, écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne, que commence, dans l'économie du récit, dans la trajectoire narrative, la longue liste d'exactions qui forment pour lui le récit du gouvernement de Guillaume. Alors, il existe une bibliographie immense sur les techniques de dénombrement, sur l'élaboration des manuscrits, sur la nécessité de distinguer le livre de l'enquête, savoir si les manuscrits qu'on a, le petit et le grand, correspondent à des étapes d'enquête, et sur les fonctions politiques de l'opération, dont on sait aujourd'hui qu'elle est de toute façon globalement multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle tient à la fois de la négociation des droits entre le roi et son aristocratie, de la communication politique qui permet effectivement à Guillaume de faire du Domesse des Boucs le support d'une ritualité, même d'une liturgie avec les grands serments de Salisbury, et de l'acte d'expiation. Parce que la trajectoire narrative du Domesse des Boucs, dont j'entends dire ici juste quelques mots, suivant les excellentes analyses de David Bates, elles doivent toujours partir de ce précédent. En ce jour-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le dénombrement de tout le monde romain, et tous allèrent se faire inscrire. C'est évidemment à partir des premiers versets de l'évangile de Luc qu'il faut comprendre la portée de la rédaction du Domesse des Boucs, le livre du jugement dernier. Puisque c'est apparemment ainsi que les gouvernés ont appelé le texte dans lequel, et de manière irréversible, leur vie se trouvait captive. Car cette description, c'est ainsi qu'on appelle le « Little Domesday Book », c'est-à-dire la version écrite des enquêtes sur les comtés de Norfolk, Suffolk et Essex, qui est en fait le manuscrit le plus volumineux. Ce n'est pas seulement un inventaire du sol ou des droits qui y pèsent. C'est la collecte des expériences et des récits de vie. Et, en l'occurrence, souvent de vie bousculée, parfois brisée par la conquête, de souffrances qui se disent, et qui se disent dans un rapport d'enquête, sous serment. David Roth estime que 60 000 personnes ont été entendues devant le tribunal au cours de l'enquête de 1086 et qu'entre 20 000 et 40 000 ont contribué à un moment ou à un autre à fournir une information sur la situation locale. Et j'insiste sur ce point, ce sont des récits de vie qui sont passés sous serment et qu'enregistre le Domesse des Boucs. Et c'est précisément cette capture de la vie même par l'écrit, qui semble aux auteurs, par exemple au rédacteur anonyme de la chronique dite « E », une violence insupportable. Voici un breton anonyme ayant épousé une anglaise par amour, habitant dans le Norfolk, et devant avouer qu'il occupe sa terre sans autorisation préalable. Et à seulement parcourir cette description qui est en fait une narration de 1000 vies enchevêtrées et brisées, eh bien, à seulement les parcourir donc, il est difficile de ne pas penser à ces anthologies d'existence dont rêvait Foucault lorsqu'il organisait la collecte de la vie des hommes infâmes. C'est-à-dire non pas la parole des hommes, des femmes sur eux-mêmes, non pas le fait qu'on peut à un certain niveau de conscience, porter témoignage de sa déroute ou de son entêtement, mais des paroles que le pouvoir lui-même a griffées sur ce que Foucault appelait le petit vacarme qui fait l'énergie même de leur être au monde, et partant de la rencontre de, je le cite, de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avait abattus. Et au-delà, effectivement, du caractère poignant, le philosophe cherchait d'abord à rendre compte de cette immense possibilité de discours que porte le pouvoir dès lors qu'il guette, dès lors qu'il marque, dès lors qu'il classe, dès lors qu'il trace. Parce que le Domes des boucs n'enferme pas seulement que des paroles gelées dans l'hiver implacable du livre, comme dit Pierre Michon. Il permet de les réchauffer au grain des voix, pas seulement des voix des grands, pas seulement de la voix du roi qui va y poser effectivement celle impérieuse de sa ritualité, pas seulement de la voix des grands qui vont en faire le support des serments rassemblés à Salisbury, mais peut-être aussi la voix de tous ceux qui auront à discuter ou contester leurs droits. Parce que du point de vue diplomatique, comme l'a noté Paul Yams, c'est pas seulement un inventaire des droits qui fige une fois pour toutes une situation de fait. Le Domes des boucs s'inscrit plutôt dans l'univers documentaire dit de la pancarte, au sens technique de la documentation médiévale, c'est-à-dire d'un répertoire des droits sur lequel on pouvait s'appuyer pour les discuter. Et c'est ça, effectivement, cette immense possibilité de discours. C'est-à-dire que la narration est capturée par la norme. C'est ce qu'on appelle, effectivement, depuis le début, si je veux dire, c'est-à-dire depuis les premiers travaux sur la fiction politique, suivant Emanuele Coccia, la question, de comment on suit toutes les conséquences de cette révolution narrative du christianisme, où la nouvelle loi, effectivement, ne se donne pas comme précepte, mais comme récit, et où donc, d'une certaine manière, la normativité se dit par la narration. Qu'est-ce que c'est qu'un droit qui se dit par récit, et inversement, que devient le récit, le fait même de raconter sa vie, si elle peut être capturée par le droit. On est dans ce monde-là. On est dans ce monde qui est en train d'être basculé justement par la réforme grégorienne. Guillaume le Conquérant meurt en 1087, 2 ans après le pape Grégoire VII, et 8 ans plus tard, en 1095 donc, Urbain II lance l'appel de Clermont qui est à l'origine de l'élan de croisade. Et, au fond, cette logique de fragmentation et de dislocation n'est pas propre à la Normandie féodale, mais rend compte de, disons, l'élan même des pouvoirs en Europe occidentale et, évidemment, de l'élan de ce pèlerinage armé qu'on appelle la croisade. Que l'on songe par exemple à Godefroy de Bouillon, qui met en gage, à l'âge de 40 ans, ses domaines des Ardennes, dans l'ancienne Lotharingie, pour suivre l'appel du pape Urbain II. Et donc, c'est effectivement un exemple de fuite. Fuite en avant, mais fuite de quitter sa communauté. Cette aventure du pèlerinage armé conviendrait sans doute de l'intégrer dans notre réflexion d'ensemble sur les expérimentations politiques, en relation d'ailleurs avec toutes les autres formes de projection coloniale. La question terminologique, évidemment, fait actuellement débat entre les historiens. Est-ce qu'on peut admettre que les Latins du royaume de Jérusalem forment une société coloniale ? Oui, si l'on compare les formes de leur installation avec les colonisations germaniques, espagnoles, irlandaises, aux confins des empires. Mais il faudrait alors admettre, et admettre notamment avec le grand spécialiste israélien Benjamin Kedar, que c'est un cas assez étrange de colonisation sans métropole. Parce que c'est une projection coloniale, mais de quoi ?
Eh ben,
Guibert de Nogent décrit l'Orient latin comme la colonia nova christianitatis, c'est-à-dire la nouvelle colonie de toute la chrétienté. Il faudrait alors comprendre que c'est la colonie de la chrétienté tout entière, mais le royaume de Jérusalem a d'emblée été indépendant. Il est à lui-même sa propre métropole, ou plutôt, son gouvernement expérimente, ainsi que l'a noté Elisabeth Crouzet-Pavant dans son livre « Le mystère des rois de Jérusalem » 1187, pardon, la conquête par Saladin. Elle expérimente donc une impossible royauté. Comment, pour les successeurs de Godefroy de Bouillon, régner dans une ville dont le Christ était le roi, ou qui était en tout cas capitale du patrimoine du Christ? Les sources le disent d'abondance. Godefroy de Bouillon entend qu'il était un fils d'Adam, entend par conséquent qu'il est porteur du péché originel, ne peut pas être roi. Il n'est qu'advocatus, il n'est qu'avoué du Saint-Sépulcre. Il est l'ombre du tombeau. Mais il n'en est pas moins l'élu du Seigneur. Ce qui constitue bien une énigme, un mystère, oui, au sens théâtral du terme. Il n'y a pas ici deux corps du roi, mais deux rois, l'un au ciel, l'autre sur terre, liés par un rapport d'onction et d'élection. Or, toute l'organisation des pouvoirs dans l'Europe occidentale repose sur cette articulation entre onction et élection, qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée, et qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée depuis 751, depuis cette date cruciale, qui est aussi celle, on s'en souvient peut-être, c'était la première séance, de la liturgisation du pouvoir qu'on a abordé, effectivement, à partir des acclamations royales, c'est Laudes Regiae, analysée par Ernst Kantorowicz. Cette articulation entre onction et élection, si essentielle, au fond, à notre conception de la théologie politique, aujourd'hui encore. Vous voyez comment on peut parler, dans un langage courant et relâché, d'une onction électorale. Le fait qu'on est choisi par le suffrage donnerait effectivement droit à une anthropologie particulière. Tout cela est la projection d'une invention, d'une expérimentation dans le royaume latin de Jérusalem qui était une royauté impossible. Donc la possibilité même qu'il y ait des rois en Europe, élus et oints du Seigneur, est en fait la réplique disloquée de l'impossibilité qu'il y en ait à Jérusalem. Deux rois, un seul corps, et même un même corps pour le roi et le royaume, puisque l'histoire s'achève par cette scène... Elisabeth Crouzet-Pavant dit d'agonie textuelle, pour reprendre une expression de Julien Gracq, où Baudouin IV, le dernier roi de Jérusalem, meurt de la lèpre en même temps que son royaume se décompose. Le roi part en lambeaux, littéralement, il n'a plus de mains, il n'a plus de visage. Il avait perdu la vue, écrit Guillaume de Tyre, les extrémités de son corps étaient frappées, tombaient en putréfaction, il ne pouvait se servir en rien de ses pieds et de ses mains. Ça veut dire il ne peut plus partir, mais il ne peut plus tenir, il ne s'empare plus de rien. Pour le pape Alexandre III, point de doute, le corps du roi est flagellé, le châtiment de Dieu s'exerce. Mais pour les chroniqueurs des croisades comme Ernoul ou Guillaume de Tyr, je viens de le citer, le roi souffre de la passion du Christ roi. Il est crucifié pour sauver les péchés de ses sujets. Il va suivre son chemin de douleur jusqu'au Saint-Sépulcre. Il est donc sur cette trajectoire sacrée de cette triomphante humilité christique, où le roi des douleurs est un roi de la passion de son peuple. L'histoire de cette décomposition politique est celle de l'Europe occidentale, qui vivra désormais criblée de répliques du Saint-Sépulcre. L'idéal de croisade, Alphonse Dupont l'a bien montré, se retournant en aspiration à la réforme, donc à la création d'un royaume intérieur. Et évidemment, il conviendrait de suivre à la trace toutes ces répliques qui nous feraient, là encore, prendre le parti de l'archipel sur le territoire, la présence des ordres militaires partout en Europe, les temples, et évidemment la nécessité pour des monarchies administratives qui tentent de reconstruire, disons, une étendue de pouvoir contre cet archipel de droit, Philippe le Bel, de s'attaquer à ceux qui, d'une certaine manière, sont les héritiers de cette structure des pouvoirs par exemption et immunité qui forme la trame politique d'une gouvernementalité de l'exception. Et d'une dissémination à partir d'un centre vide de tout ce qui vient effectivement faire écart, absenté, c'est-à-dire toutes les formes. Il faut prendre au sérieux l'étymologie de l'exception, ex capere, prise dehors, non pas simplement exclue, mais pris depuis le dehors, capturé depuis le dehors. Donc, il faut prendre au sérieux effectivement cette gouvernementalité de l'exception, comme le montre Agamben. L'exception n'est pas sans rapport avec la norme, elle se maintient en relation avec elle dans la forme de la suspension. Et la situation d'exception n'est ni une situation de fait, ni une situation de droit. Elle institue entre l'une et l'autre un seuil d'indifférence, et le souverain est précisément le point d'indifférence entre la violence, le droit, c'est-à-dire en fait le seuil où la violence se transforme en droit. Donc un au-delà de l'immunité, un point de fuite. C'est donc dans ce mouvement de renversement et de débordement que se joue, selon moi, l'invention du politique. Et donc, il convient de faire une théorie discontinue de l'emplacement comme espace autre, hétérogène à lui-même, ce que je balbutie depuis quelques semaines. Or, cette capacité de fuir la communauté ne concerne pas que les puissants. Elle est même, pour parler comme James Scott, la force des faibles. Et là, on va rejoindre effectivement ce qu'on avait esquissé la fois dernière avec ces histoires corsaires, d'esclaves peut-être, et de pirates. J'avais déjà évoqué cette figure de James Scott, cet anthropologue et politiste très singulier, adepte d'une anthropologie anarchiste dans la lignée de Pierre Clastres, qui tente de comprendre, au fond, comment on peut vivre et penser dans le dos du pouvoir. Comment ceux qui n'ont jamais cessé de vivre et de penser dans le dos du pouvoir permettent aux historiennes et aux historiens de mieux comprendre ce qui fait l'État, non pas ce qu'il fait, mais ce qui fait l'État, à partir de son envers, de son impossibilité même, à partir de, en lisant, je cite James Scott dans La domination ou les arts de la résistance, en lisant à travers les lignes d'une histoire de la domination qui serait, si on ne pouvait la lire entre les lignes, désespérante. Et il y a un livre tout à fait singulier, tout à fait étrange et qui est contesté, mais mon avis, fort suggestif, sur lequel, là encore, je vais dire quelques mots pour y appuyer, paru il y a quelques années sous le titre « Zomia » ou « L'art de ne pas être gouverné ». Qu'est-ce que « Zomia » Le terme signifie « les gens de la montagne » dans plusieurs langues tibéto-birmanes. Ça désigne aujourd'hui un vaste espace transnational de 2,5 millions de kilomètres carrés à cheval sur 6 États d'Asie du Sud-Est, de la Birmanie à la Chine, en passant par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, 100 millions d'habitants qui vivent sur ces hautes terres, dont James Scott retrace l'histoire millénaire qui est celle pour lui d'une lente et opiniâtre résistance pour échapper à l'emprise de l'État. La zomia est donc un effet d'État. Ce n'est pas un manque, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un raté, un blanc sur la carte. Ce n'est pas même un retard dans le développement. C'est, pour lui, le résultat d'un choix continu, difficile, opiniâtre, collectif, évidemment réversible, qui est celui du refus de l'État. De cette société contre l'État qu'a, effectivement, en 1974, théorisé Pierre Clastre, l'anthropologue des Indiens Guarani, ce que nous montrent les sauvages, écrit-il, c'est l'effort, là c'est Clastre qui parle, c'est l'effort permanent pour empêcher les chefs d'être chefs, c'est le refus de l'unification, c'est le travail de conjuration de l'un, de l'État, l'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de la lutte des classes, l'histoire des peuples sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'État. Bon, quand on lit cela, effectivement, ce texte de 1974, tout crisse à nos oreilles. Peuple sans histoire, sauvage. Bon, disons qu'on ne dirait plus ainsi. On jugerait même assez sévèrement ce grand partage lévi-straussien entre société froide et société chaude, entre société à histoire et société sans histoire. Mais on y reconnaîtrait tout de même l'énergie, la vigueur d'une philosophie politique de la réversibilité, de l'involution, et aussi du fait que cette réversibilité et cette involution, je vais y revenir, a à voir une fois encore avec une scène de langage. Alors, c'est donc l'histoire, sans doute un peu fantasmée politiquement, forme de fiction politique, Zomia, de millions de personnes qui échappent à l'emprise de l'État et qui se réfugient sur les hauteurs et qui organisent donc leur fuite. Et à lire James Scott, je ne peux personnellement m'empêcher de penser aux mots de Georges Duby, tentant de décrire ce qu'est effectivement la culture du gouvernement médiéval. Dans la culture dont je parle, les expressions les plus vigoureuses de ce que nous appelons la politique étaient des gestes manuels, saisir, dessaisir, tenir. Le fils se tenait dans la main de son père, l'épouse dans la main de son époux, et la main de Dieu se tendait vers les délégués de sa puissance. Ce à quoi travaillent les seigneurs, c'est à la congregatio popularum. Populorum, c'est à la... Ils sont, dit Pierre Toubert, des entrepreneurs de peuplement. Ils regroupent, ils rassemblent. C'est le paysage de l'incastellamento, mais l'inecclesiamento, c'est la même chose. Les curés veulent rassembler leurs ouailles. Et c'est évidemment une des figures du pouvoir, cette quête obsessionnelle de la population, d'une population qu'on a littéralement sous la main. Et cette manière de dire, sans doute n'est-elle pas invariante, mais anthropologiquement partagée. Voilà pourquoi il est intéressant effectivement de suivre James Scott dans ses archives, qui évidemment je ne maîtrise pas, mais qu'il met en récit avec vigueur. C'est la coutume des rois que de se nommer eux-mêmes rois s'ils ont des ministres et des sujets. S'il n'y a pas de sujet, qui rendra hommage au roi ? Lit-on dans l'histoire d'une cour malaise, XVIIe siècle. Et un seigneur de Palembang de renchérir en 1747. Il est aisé pour un sujet de trouver un seigneur, mais beaucoup plus difficile pour un seigneur de trouver un sujet. Donc là, on a évidemment une expression assez universelle de ce pouvoir de défection qui, s'il est effectivement rendu possible ou pensable, permet cette fuite qui empêche ce que j'appelle l'emplacement, c'est-à-dire justement la prise en compte de l'obligation, au fond, de la délibération. Alors effectivement, on pourrait dire de la Zomia que c'est une communauté de fugitifs. Peut-on dire avec James Scott, c'est un article qui est paru en 2001 sous le titre « La montagne et la liberté » où il affirme depuis longtemps déjà « Je cherche à comprendre pourquoi l'État est hostile aux gens qui bougent ». Et il montre comment, qui est une vraie question, les États du sud-est asiatique ne parviennent pas à lutter contre cette logique centripète, comment les royaumes agraires esclavagistes qui étaient en proie au double mouvement d'épuisement de leurs ressources humaines par la fuite vers les montagnes et par la traite des captifs par les États corsaires, justement, du littoral malais, comment, effectivement, ils tentent de marquer les populations par le tatouage, notamment, on est toujours dans ces mêmes logiques, mais où tout fuit, évidemment. Alors, il y a deux questions à poser à Scott. La première, c'est la question effectivement du déterminisme géographique. Est-ce que la montagne rend libre ? Alors évidemment, il y a les exemples des Pachtounes, des Cosaques, il y a ce modèle des Indiens marrons d'Amérique. Et la deuxième question à lui poser, c'est évidemment, est-ce que ce modèle est désirable ? Il y a un enthousiasme politique avec lequel il oppose ce monde de l'un cauchemar de l'homogénéité qu'est l'État à l'enchantement de la diversité. Est-ce que c'est non-state space ? Après tout, le Sahel, les montagnes Pachtounes, mais aussi les espaces de la piraterie que sont le détroit de Malacca ou les côtes somaliennes aujourd'hui, ne sont pas non plus absolument les endroits les plus habitables du monde. Et puis, on pourrait dire aussi que le modèle suprême de la Zomia, c'est-à-dire de la communauté de fugitifs par une grande piraterie internationale, ça pourrait être aussi le paradis fiscal. Au fond, il y a là une pensée qui est, j'en parle parce qu'elle est très prégnante quand même dans la philosophie politique contemporaine, dont la radicalité, à mon avis, est tout à fait à comprendre dans son rapport justement une fois de plus à la narration, puisque au fond le grand récit de Pierre Clastres, ce qu'il appelle l'allettrisme, c'est-à-dire c'est l'idée que ces sociétés ont d'une certaine manière perçu, ou en tout cas aperçu, ce que pouvait être une évolution vers des formes de gouvernement d'État, et ont eu des chefs, et y ont renoncé, et que les mythes guarani disent, au fond, ce renoncement qui est aussi le renoncement à la société écrite, avec la préscience, effectivement, que c'est la narration qui, d'une certaine manière, est l'écrit et la mise par écrit. Donc, effectivement, le domaine des bouts est l'expression la plus brutale et la plus précoce, qui est effectivement la condition de l'emprise. Retenons en tout cas de tout ceci quelque chose de très simple. C'est que l'arme suprême des révoltés demeure le déguerpissement. Non pas la fuite individuelle et le sauve qui peut, mais la conduite collective dans le cadre d'une coalition d'habitants qui, effectivement, joue de cette possibilité. C'est le cas des paysans japonais lorsqu'ils forment une coalition, c'est-à-dire lorsqu'ils font iki. Je m'appuie ici sur le livre de Katsumako Shizu, Iki, coalition, ligue et révolte dans le Japon d'autrefois, dont j'avais fait une note critique dans la revue Critique sur la société des ingouvernables, montrant au fond qu'il y avait là une puissance d'universalisation de cette description d'un Japon féodal où les coalitions, les ligues, pas seulement de puissance, et d'abord comme ligue chevaleresque que les Iki s'inventent, mais aussi ligue paysanne, comment, au fond, tout cela pouvait inspirer une histoire comparée des pouvoirs. Si vous le souhaitez le lire, je vous y renvoie. Lorsqu'on lit, par exemple, dans les sources japonaises que les paysans coalisés ont entrepris de tirer, étaler les bambous, il faut sans doute entendre qu'ils ont couvert de broussailles et de feuilles de bambou les entrées des maisons, mais aussi les champs, que c'est un obstacle tactique, une sorte de barricade, qui se conjugue avec une dimension religieuse. Les branches des bambous sont utilisées comme réceptacles pour accueillir les divinités, mais aussi comme capacité de rendre invisible et inintelligible, incontrôlable, l'espace. Échapper à l'emprise du pouvoir en bloquant l'accès aux ressources, en partant se réfugier dans la montagne, telle est la principale hantise des seigneurs qui, au même moment, je le répète, se constituent en entrepreneurs de regroupement de population. Alors cette question, finalement, si on veut la prendre au sérieux, elle engage la compréhension de ce qu'est une communauté d'habitants au Moyen-Âge. Communauté d'habitants au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'habiter, j'y reviens. Et est-ce que ces pratiques, ceux qui fuient la communauté, peuvent nous le faire mieux comprendre? Cette notion a été retravaillée dans un programme collectif dirigé par Joseph Morcel et qui a donné lieu tout récemment à un ouvrage collectif aux éditions de la Sorbonne qui s'appelle « Communauté d'habitants au Moyen-Âge, 11e, 15e siècle », sur lequel je m'appuie désormais. Pour dire ceci, ce qui définit la communauté d'habitants, c'est bien le fait d'habiter. Les paysans dépendants n'y sont pas définis en fonction de leur rapport au seigneur, mais bien de leur lieu de résidence. Dès lors, la cohésion sociale des communautés réside moins dans le rapport à la parenté ou au pouvoir que dans l'appartenance commune à un lieu. Tel est donc l'enjeu de la spatialisation des rapports de pouvoir et de domination. Autrement dit, et même si on veut admettre avec Jean-Pierre Devroy, qu'au fond, il y a une continuité entre, disons, l'économie domaniale et l'économie seigneuriale. Économie domaniale qui, elle aussi, effectivement, est fondée sur le dénombrement. Et le domus des boucs est, finalement, l'héritier du polyptyque carolingien. Mais le système seigneurial n'est plus fondé sur les déplacements, comme c'était le cas dans l'économie domaniale qui était réglée par les corvées et les autres prestations de travail. Mais bien, au fond, centré sur le lieu de résidence. Ça, c'est un fait. On le sait depuis longtemps. Mais l'historiographie récente montre qu'il ne faut pas non plus penser la communauté d'habitants comme une étendue close, mais comme un système circulatoire, et notamment de circulation des animaux. Le cas a été étudié en Beauce, en Aragon, dans le Nurembergeois, évidemment, ça met en cause le gouvernement pastoral. Simplement, la question des troupeaux, c'est, les anthropologues nous le montrent assez clairement aujourd'hui, on ne sait pas trop qui conduit qui entre le troupeau et le berger. Mais si on prend par exemple l'exemple du Rouergue, à la fin du Moyen-Âge, particulièrement dans la baronnie de Séverac, qui a été étudiée par Juliette Dumazy-Rabineau, on voit que les communautés d'habitants, elles ont une très forte autoconscience politique. Elles s'appellent Universitates. Elles rassemblent, à partir de 1270 environ, des villages et des mâts environnants. Et ces mâts sont dans différentes paroisses. Donc il n'y a pas effectivement d'homogénéité, ou en tout cas il n'y a pas de superposition entre le cadre paroissial et le cadre communautaire. C'est bien que les communautés d'habitants sont fondées sur le fait d'habiter, mais habiter, ça ne veut pas dire appartenir à un lieu. Ça peut vouloir dire aussi savoir s'en déprendre par une négociation et une circulation. Et donc, au total, une communauté d'habitants forme un ressort, forme un mandement où mâts et villages s'unissent pour défendre leur liberté. La communauté d'habitants repose donc sur l'appartenance à un feu. Elle est articulée, mais elle est disjointe de la paroisse. Communauté et paroisse sont donc deux formes complémentaires de spatialisation du lien social. Donc si on prend au sérieux la valeur anthropologique et politique de ce que c'est qu'habiter, on dirait, et là encore je pense que ça fait résonner une anthropologie contemporaine de l'invention du politique, ou peut-être effectivement... Notre embarras vient du fait qu'on sait ce que veut dire se loger, mais plus habiter. Habiter signifie ici différencier des lieux, d'où la question cruciale du partage communautaire des ressources. On le signifie, on le voit très clairement dans des paysages hybrides qui sont étudiés, par exemple, par Samuel Le Turc pour l'Europe du Nord, ou l'Open Field, s'articule à des pratiques agro-pastorales, où ça veut dire que le champ ouvert est aussi ouvert aux troupeaux et donne effectivement un espace hybride où s'organise ce que les géographes appellent une co-spatialité entre production céréalière et élevage. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques qui doivent se discuter, de la veine pâture qui... effectivement, garantit la liberté de parcours des troupeaux, qui est une faculté de la communauté, qui n'est pas un droit. Et ainsi se définit, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait prendre la question, une res publica des champs entre communauté, individualisme agraire et assolement. Fondamentalement, la communauté, c'est un organe de régulation de l'accès aux ressources du territoire. Et on aurait là, effectivement, je dirais, sur place, un espace médian qui permettrait de comprendre comment on invente ou on s'invente ou on réinvente sans cesse des moyens de se mettre ensemble et de se mettre d'accord. Ce qui signifie que l'on s'identifie par un lieu, mais qu'on ne s'identifie pas à un lieu. Ce qu'il a encore, si on essaye de le faire résonner avec ce que des philosophes du dépaysement ou de l'inimitié, comme Achille Bembe, disent, est, à mon avis, de très haute portée, apprendre à se déprendre. L'idée, au fond, qui peut nous permettre de desserrer la tenaille entre l'autochtonie et le cosmopolitisme, l'idée que la résidence n'est pas antinomique du mouvement. Mais que du point de vue du pouvoir seigneurial, au fond, l'essentiel, et c'est ce que remarque Julien Demade dans ce livre, l'essentiel n'est pas que des personnes habitent ces lieux, mais que ces lieux soient habités par des personnes qui se désignent comme étant de ce lieu. Donc il n'est pas obligatoire que ce soient les mêmes personnes. Je le cite, « Les lieux n'ont pas besoin des personnes, mais de personnes, peu importe lesquelles. » C'est ce que Ibn Khaldoun, dans sa théorie de l'histoire, appelle le troupeau. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, le fait qu'on puisse fuir, pourvu qu'on est remplacé par d'autres, n'est pas un raté du système. Ça permet justement de le rendre vivable, proprement habitable. Inversement, quand une nouvelle lignée seigneuriale s'installe dans un château, elle prend le nom de la lignée précédente, ce qu'on appelle précisément une topolignée. Un bel exemple de cette plasticité est fourni par un cas limite, au sens précis que Yann Thomas donnait à ce qu'il appelait les opérations du droit et qui, au fond, mettent la norme à l'épreuve d'une rupture d'identité. Nous sommes au sud de la Toscane, sur le versant occidental du mont Amiata, non loin de Grosseto. Le 5 août 1240, à la suite d'un incendie, une communauté villageoise décide de déménager, d'abandonner son village, nommé Monte Pizzutolo, et de le reconstruire plus loin sur un nouveau site appelé Monticello. Ils obtiennent de leur seigneur l'abbé de San Salvatore, au mont Amiata, de reconstruire leur maison, de reconstruire leur église paroissiale, de déplacer leur cimetière, contre la promesse que le système de redevances reste inchangé. Ce cas assez rare de réincastellamento, après un abandon de village, est documenté par une charte de franchise qui prend la forme d'un pacte entre l'Universitas, c'est ainsi qu'elle s'appelle, de Monte Pizzutolo, et de l'abbé, qui agit avec le consentement de son chapitre, et qui agit, dit le préambule de l'acte, pour l'honneur, ad honorem, et le bon état, bonum statum, du monastère. Donc lui, d'une certaine manière, c'est peut-être pas les mêmes, c'est peut-être pas le même lieu, mais s'il y a les mêmes redevances, au fond, ça va. C'est ce qu'affirme effectivement le préambule de l'acte signé devant notaire à Monticello, donc le nouveau lieu, le 5 août 1240, et qui fut édité par Odile Redon en 1979. Or, récemment, Emmanuel Huertas a retrouvé dans le chartier de San Salvatore un second original, avec à peu près le même texte, mais pas dans le même ordre, et pas tout à fait les mêmes dispositions. Et la bizarrerie, c'est qu'il est daté également du 5 août 1240, et qu'il est signé des mêmes protagonistes. Alors, est-ce qu'il s'agit de deux copies authentiques conservées, l'une dans les archives du village, l'autre dans celle de l'abbaye ? Ben non, parce que ce ne sont pas les mêmes. L'ordre des paragraphes, certaines dispositions diffèrent, et en fait, le deuxième est la première étape de la négociation, qui est âprement discutée. Ce qui explique d'ailleurs les redondances de la formule, des formulations qui sont redites, et redites un peu légèrement modifiées. Donc ça veut dire que les habitants, en fait, concèdent qu'ils sont les hommes de l'abbé, mais en échange, ils sont les hommes au sens seigneurial, mais en échange obtiennent quelques concessions, notamment sur le financement du déménagement. Et surtout, ils parviennent, entre les deux versions, à se faire reconnaître, de jure, par leur entrepreneur de peuplement, pour reprendre l'expression de Toubert, comme une universitas. Et d'ailleurs, sur le plan de ses droits, l'universitas
ne cesse de se renforcer dans les années 1280. Or, et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est un document très très rare, mais je trouve extraordinaire, le monastère de San Salvatore conserve dans ses archives une lettre de cadrage de l'abbé de Cîteaux, datée de l'été 1228 et adressée donc à ces moines cisterciens qui vont s'installer dans ces régions de Toscane. Et cette lettre leur dit « Attention, c'est pas n'importe qui, les négociations vont être difficiles. » Et elle dit, cette lettre, « Avec les hommes du castra d'Abadia, tiens, ceux qui se souviennent des cours sur la fiction politique, c'est le lieu où la novellistica toscane mettait des répliques, justement, du Decameron, notamment chez, dans la nouvelle toscane qu'on avait, siennoise qu'on avait étudiée. Avec les hommes du castra d'Abadia, de Monte Laterone et de Monte Pinzutolo, celui dont je parle, ayez toutefois des mots bons et séduisants, de telle manière à ne pas vous faire piéger dans quelques promesses parce qu'ils sont intelligents et subtils. » Il parle des paysans. Il parle de leur capacité d'agir. Il parle de leur compétence dans l'ordre du discours. Il parle de leur capacité à fuir la communauté pour faire commune à nouveau. Il parle de ce nœud de pouvoir que nous venons de désigner entre normativité et narrativité. Il parle de tout cela qui forme effectivement la trame de l'histoire que je tente de vous raconter et que je continuerai, même si c'est presque fini, la semaine prochaine. Merci.